Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Brive pour cette foire du livre et bienvenue en ce forum Claude Duneton. Je suis Pierre Croze du site Babelio. C'est un réseau social qui vous permet d'ajouter vos critiques de livres, par exemple les livres que vous auriez dédicacés aujourd'hui pour la foire. Et on vous propose une rencontre intitulée « La vie d'artiste ». C'est une vie qui fait rêver ou pleurer. Certains en sont fascinés, certains la méprisent. C'est une vie qu'endurent peut-être nos auteurs et autrices présents ici, mais qui ont en tout cas consacré chacun et chacune des livres autour de certains artistes célèbres ou de fiction. C'est le cas de Léonore de Recondo, par exemple. Bonjour Léonore.
Bonjour.
Dans Le Grand Feu que je vous montre, dans Le Grand Feu, publié aux éditions Grasset, nous sommes dans la Venise du XVIIIe siècle et vous mettez en scène Ilaria, une fille qui a été placée par sa famille dans un orphelinat qui est également un conservatoire de musique prestigieux. C'est une église. Elle n'est pas tout à fait orpheline, mais la mère d'Ilaria voulait qu'elle chante comme un ange. Finalement, c'est au violon que la jeune femme va s'épanouir, alors qu'enseigne dans l'hospice un génie du violon, un certain Antonio Vivaldi. Et alors, je précise, cela aura peut-être son importance pendant la rencontre, pendant la discussion. Vous êtes vous-même violoniste. Je crois que vous aviez commencé à étudier cet instrument à l'âge de 5 ans. Vous nous apporterez peut-être ces deux points de vue, à la fois d'être violoniste et d'écrire aussi, pour la première fois, je crois d'ailleurs, sur cet instrument. Et je précise dès maintenant, vous serez en dédicace cet après-midi et samedi au kiosque L25. Je crois que c'est juste à côté. À vos côtés, Charlie Roquin. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Vous publiez quant à vous Les Maîtres de Bayreuth, je vous le montre aussi, aux éditions Le Cherche Midi. On va parler d'art avec vous, mais aussi d'une partie intégrante de la vie d'artiste, les critiques. Vous mettez en effet en scène dans votre roman un grand critique musical qui se rend comme chaque année, à Bayreuth pour le festival créé par Wagner lui-même et consacré encore aujourd'hui à 10 de ses grands opéras, ses opéras de maturité, comme on dit. Les avis de ce critique sont très attendus par la communauté des auditeurs de Wagner et il les donne volontiers, ces avis, le soir, dans une sorte de bistrot où des gens l'écoutent religieusement. Sauf que cette année, dans l'année du livre, un jeune homme prend la parole pour se moquer ouvertement des avis du pape, des critiques. Pourquoi cherche-t-il cet affrontement? On va en parler, on va parler opéra et critique avec vous. Vous serez en dédicace vendredi, donc cet après-midi, samedi, dimanche, au kiosque L19. Je crois que c'est pas très loin non plus, vous trouverez assez facilement. On va parler musique, opéra, mais cinéma aussi. Cette fois, ce sera avec vous Nicolas Destiendorf. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous publiez Arletty, un cœur libre, aux éditions Kalman-Lévy. Il ne s'agit pas tout à fait d'une biographie, mais plutôt d'un récit autobiographique, romancé. Vous vous mettez en effet en scène, vous mettez dans la peau de Léonie Batia, qui devient l'une des comédiennes les plus acclamées de son temps, sous le nom d'Arletty, mais dont la légende est, disons, peut-être un peu ternie par sa liaison avec un officier allemand pendant l'occupation et aussi par ses bons mots qui ont peut-être desservi cette grande actrice. Est-ce qu'on connaît vraiment Arletty? On a tous en tête certains passages au cinéma, mais que sait-on de sa vie? On va en parler ensemble. Vous serez en dédicace aujourd'hui, cet après-midi et samedi au kiosque L22. Et c'est édité aux éditions Kalman-Lévy. Je ne sais pas si je l'ai précisé. On a un peu moins d'une heure pour en parler tous ensemble de ces différents sujets. Je vais vous donner la parole. Peut-être pour commencer, faire un petit tour de table autour des différentes figures d'artistes qui peuplent vos romans, pour qu'on discute peut-être ensuite de leur vie. Léonore, par exemple, pour commencer, vous faites le portrait d'une jeune violoniste dans la Venise donc, du XVIIIe siècle. Elle apprend le violon avec un certain Antonio Vivaldi. C'est le personnage d'Ilaria qui vous intéressait quand vous avez commencé à écrire ce roman, ou est-ce que c'est peut-être la figure, pas encore imposante, mais presque, de Vivaldi? Pourquoi ces deux personnages-là?
Alors, non, d'abord, c'était vraiment écrire une fiction, choisir justement un personnage qui n'était pas historique pour être dans la forme romanesque. Et aussi parce que j'avais envie d'écrire une sorte de roman aussi initiatique sur l'apprentissage du violon, de ce que c'est que grandir avec un instrument à chaque étape de cet apprentissage. Et ça, je voulais pas le faire avec la figure de Vivaldi, parce que je suis pas musicologue, c'était pas mon sujet. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer, comme vous l'avez dit au début, cette communauté qui est celle de la Pietà, cette institution qui accueillait des jeunes filles, enfin des bébés et des enfants défavorisés ou des orphelines pour leur enseigner la musique. Et il s'avère que dans cette Pietà enseignait Vivaldi à l'époque où se passe le roman. Donc évidemment, je choisis cette époque et ce lieu, et je choisis de placer cette petite fille dans ce temps-là parce que j'ai envie de parler de cette période. Et je suis violoniste, mais je me spécialisais dans la musique ancienne, la musique baroque. Donc évidemment, Vivaldi et ce répertoire, c'est celui qui m'est le plus cher et c'est celui dont j'avais envie de parler, mais via le prisme de la fiction.
Charlie Rouquin, avec vous, on se rend à Bayreuth. De manière un peu plus moderne, enfin contemporaine, à l'occasion d'un festival donc, qui se rend chaque année, chaque été, donc, où sont joués les 10 opéras. Alors on ne rencontre pas forcément des chanteurs ou des musiciens, mais surtout des critiques, dont deux qui s'affrontent dans un petit bar. J'en ai un petit peu parlé pendant l'introduction. C'est Wagner qui vous intéressait, la figure de Wagner, ou au contraire, peut-être justement ce cercle aussi de Wagneriens qui se réunissent dans ce espèce de microcosme à Bayreuth?
Alors, parmi les raisons, les moteurs que j'avais dans l'écriture de ce roman, il y avait voilà, l'envie de parler de Richard Wagner, mais je pense que j'aurais pu le faire avec un autre compositeur, un autre artiste, et d'étudier les différentes variations, en fait, d'avoir différents personnages et d'étudier le rapport différent que ces personnes ont avec un même artiste. Donc vous avez un chef d'orchestre américain qui est un grand chef qui dirige le philharmonique de New York dans mon roman, mais qui est frustré puisque on lui refuse les portes de Bayreuth. Vous avez donc ce grand critique très orgueilleux qui en réalité est devenu un ponte de la critique wagnérienne parce qu'il n'était pas assez doué musicalement pour devenir lui-même un chanteur ou un instrumentiste. Un fils qui est déçu que son père ne l'ait pas initié à sa passion pour Wagner, et ainsi de suite. Donc c'est autant de variations autour d'un même compositeur dont j'avais envie de parler et qui me paraissait extrêmement impressionnant, puisque Richard Wagner, de même que Vivaldi, sont vraiment deux compositeurs absolument majeurs. Moi je connaissais assez peu.
Avant de commencer le roman, vous n'étiez pas forcément un grand wagnérien?
Non, pas du tout. Non, j'aimais déjà bien la musique classique en général, mais l'opéra je connaissais déjà beaucoup moins, et Wagner pas du tout. Mais ça faisait depuis des années que je croisais parfois des wagnériens qui me parlaient de son œuvre avec une émotion et une passion incroyable. J'avais lu, entendu que Richard Wagner serait, après Jésus-Christ et Napoléon, la troisième personne sur laquelle on a le plus écrit. C'est-à-dire qu'il y a une science wagnérienne, il y a des centaines d'essais. Voilà, et donc moi je me dis, à mon humble niveau, comment faire pour parler de ce compositeur, et donc j'ai choisi une façon tout à fait personnelle que je viens de vous décrire.
Et on va continuer à en parler. Nicolas Dessendorf, alors vous, c'est dans la peau de la chanteuse et actrice Arletty que vous vous glissez. Qu'est-ce qui vous intéressait en elle? Qu'est-ce que vous saviez d'elle? Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous?
D'abord, c'est un personnage extraordinaire. 1898-1992, donc elle traverse tout le XXe siècle, la fin de la Belle Époque, la Première Guerre mondiale, les années folles, l'occupation et l'après-guerre. J'ai une passion pour le cinéma depuis toujours. Le cinéma qu'on dit de patrimoine, ce qui est une expression qui m'horripile, c'est comme si on disait que Mozart, c'est de la musique de patrimoine. Et donc, en fait, j'aime l'histoire de la chanson, l'histoire du théâtre, l'histoire du cinéma, l'histoire du musical et l'histoire de la vie artistique en France sous l'occupation. Donc tout ça se focalisait sur ce personnage qui est un des personnages les plus extravagants de son temps, qui a traversé l'époque avec une liberté de ton, d'esprit, de corps et une sorte d'amoralité incroyablement libre. Et donc ça fait un personnage romanesque extrêmement tentant. Et donc tout est vrai, mais je me suis mis dans sa peau, je me suis mis dans ses chaussures, dans ses vêtements, et c'est moi qui parle par sa voix, ou elle qui parle par la mienne, allez savoir. Et donc c'est au jeu, mais je n'ai rien inventé. J'ai juste mis en mots, comme un metteur en scène, mais en image, une histoire réelle.
Vous parlez là à l'instant d'un intérêt que vous avez pour l'histoire. Est-ce que c'est le cas d'entre vous tous pour parler de ces artistes, pour parler de ces instruments, pour parler de ce spectacle qui sont donnés, enfin de ces opéras qui sont donnés? Est-ce qu'il faut beaucoup se documenter et il faut être très précis, ou est-ce que vous avez aussi une liberté de romancier pour relater la passion que tout cela engendre? Léonore, peut-être?
Oui, il y a beaucoup de documentation pour se mettre déjà dans l'époque. Enfin, c'est non seulement l'histoire de la musique et de l'interprétation, mais aussi c'est l'histoire d'un lieu, c'est donc une histoire politique, donc une histoire sociale, donc une histoire historique. Donc ça, même si moi je me suis spécialisée dans ce répertoire-là, le contexte social et je sais pas urbain de Venise à l'époque, je le connais mal. Et justement, ça m'intéresse. Justement, j'ai envie de. Enfin, je trouve que la littérature, ça permet aussi d'apprendre. Et donc, en n'étant absolument pas historienne romancière, mais en m'intéressant à cette période-là, puisque même dans mon autre métier, celui de violoniste, je m'intéresse à une période antérieure et historique, et avec un désir comme ça d'authenticité d'interprétation, là, c'est finalement le même chemin. Et je trouve que d'avoir ce cadre, comme vous le disiez à l'instant, qui est complètement avéré, et ça, d'abord... Moi, ça m'importe de ne pas raconter n'importe quoi, même si c'est juste le décor du roman. J'ai besoin de savoir. J'avais besoin de savoir, par exemple, à cette institution exactement comment elle fonctionnait. Donc, c'était beaucoup de documentation, mais qui sont nécessaires à la création, à l'élaboration d'un monde, même s'il est fictionnel.
L'histoire est importante pour vous pour relater ce microcosme qui existe. Il y a des Wagneriens qui se rendent tous les ans, qui sont des passionnés, il faut s'inscrire des années avant pour être présent. C'est une certaine vision du monde qu'ils ont, que vous vouliez représenter aussi ?
Oui, alors sur l'histoire, moi une particularité, c'est que j'ai le roman a un pied dans le passé et donc l'histoire, et un pied dans le présent, puisque c'est une fiction qui se déroule pendant un festival de Bayreuth aujourd'hui. Donc là, on est dans la fiction, donc j'ai imaginé une mise en scène qui n'existe pas, une directrice de festival qui n'existe pas, et ainsi de suite.
Avec un peu d'humour, en plus.
Avec de l'humour, puisque je me moque un peu des mises en scène contemporaines, même si je crois que c'est un peu plus subtil que de la moquerie, mais je me suis quand même... Et en revanche, sur toute la partie historique du festival de Bayreuth que je raconte un peu dans le roman et sur la vie et l'œuvre de Richard Wagner, c'est tout à fait avéré, véridique. Et pour ça, j'ai fait un travail de recherche, d'immersion dans les milieux wagnériens. Je suis allé deux fois au festival de Bayreuth, tout en essayant de faire ces recherches bien, mais vite, parce que moi j'ai toujours peur de me noyer dans les recherches, et plus le sujet est impressionnant, plus on peut vraiment, se perdre dans les recherches. Donc je m'étais donné un calendrier en me disant, voilà, tu as 6 mois pour t'imprégner de l'œuvre de Richard Wagner, connaître un peu le festival de Bayreuth, et à la fin tu arrêtes et tu commences l'écriture du roman, sinon tu vas jamais la commencer.
Je voulais avoir peut-être l'avis d'Étienne là-dessus, sur votre processus aussi. Comment on fait pour ne pas se perdre complètement dans la peau d'Arletty ?
Bah, y a un moment où il faut arrêter. Il y a un moment où on dit, on y arrive, parce que c'est comme quand on va sur Internet, il y a un sujet qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, et on se rend compte qu'on a passé 4 heures et qu'on a totalement dévié. Mais non, en fait, moi j'ai pris les quelques biographies d'Arletty existantes et je me suis fait une chronologie biographique presque jour après jour, de façon extrêmement scolaire. Quand j'ai eu fini tout, j'ai mis tous les livres au placard en disant, je ne retouche pas. J'avais un document de 50 pages et tous les matins, je me suis mis dans sa peau. Voilà, là, elle vient de naître. Ensuite, elle grandit, elle va à l'école, elle part en province, elle rencontre son premier amant, c'est la guerre. Et je me suis installé en elle pendant pas mal de mois. Et en fait, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques temps avec les décalages dus au Covid. Et je l'ai écrit essentiellement pendant le confinement. Donc, j'étais complètement en vase clos, en tête à tête avec mon nombril et avec Arletty. Donc, c'était presque matriciel comme expérience. Donc, je vivais un pied dans un monde sous masque et un pied dans un monde en noir et blanc. Mais c'était assez passionnant.
Noir et blanc qu'on retrouve dans la couverture en noir et blanc.
Oui.
Arletty, évidemment. Une question. Pour la rencontre s'intitule « La vie d'artiste ». L'art, de manière générale, c'est un champ littéraire qui, tous les trois, vous interroge. Vous fascine. Vous parlez de cinéma tout à l'heure, de votre intérêt pour le cinéma. Ce qui vous pose question aussi, la matière artistique. Léonore, parce que vous avez mis du temps à parler de cet instrument-là, il vous a fallu du temps aussi pour analyser aussi peut-être le rapport que vous entretenez avec cet instrument.
Moi, je pense que il m'a fallu du temps parce que j'ai eu envie d'explorer d'autres choses en littérature. Mon métier, c'est d'être violoniste, et quand j'ai commencé, je me suis dit que j'avais envie d'explorer une autre manière de d'appréhender l'art, je dirais, à travers la littérature. C'était pas pour justement continuer d'explorer la musique, qui est un champ celui que je connais le mieux. Donc justement, j'avais envie d'entrer dans d'autres univers et de les comprendre et de créer des espaces qui seraient les leurs en dehors du champ musical. Et donc il m'a fallu tout ce temps, peut-être ces autres explorations, pour un certain moment me dire il est temps. Et puis je crois que c'est très mystérieux, enfin peut-être vous sauriez dire vous pourquoi à un certain moment un livre s'impose, un roman s'impose, et je sais pas, c'est fait de faisceaux multiples qui font qu'à un certain moment c'est celui-là, et à un certain moment je me suis dit bon, cette musique que je connais, ce répertoire, cet instrument, il est temps d'écrire sur ça. Mais dans des romans précédents, puisque vous parliez de l'art en général, je me suis déjà approchée de la question de la création, de son surgissement à travers deux livres, Pietra Viva sur Michel-Ange et La leçon de ténèbres autour de la figure du Gréco, le peintre. Donc ça, évidemment, la question artistique et la question de comment on vit en étant artiste et qu'est-ce que c'est que de se poser la question de la transfiguration du réel via l'art, ça nous accompagne, je pense, tous, tout le temps.
Peut-être vous entendre aussi tous les deux sur cette question de l'intérêt pour l'art en général. Et je crois que vous avez aussi dans votre famille un compositeur. Il y avait l'idée d'interroger aussi la pratique de l'art.
La musique en général, la musique classique est vraiment importante dans ma vie. C'est une vraie passion. J'avais envie d'écrire un roman ayant la musique classique pour thème. C'est pas un sujet, c'est un thème. Et en même temps, c'est extrêmement difficile, puisque la musique se dérobe aux mots. La musique évoque en nous des choses pour lesquelles le langage n'a pas été pensé. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que par les mots, par les phrases, on peut s'approcher de la musique, mais jamais réellement la toucher. Moi, ma manière de faire pour parler de la musique de Richard Wagner, c'était un peu une sorte d'artifice en réalité, de jeu autour de la musique en elle-même, en créant différents personnages, en parlant de mise en scène, en maniant l'éloquence, l'humour. Également dans le roman, je cite différents morceaux de Richard Wagner. D'ailleurs, on a fait une playlist qu'on peut retrouver à la fin. Et tout ça ensemble donne l'impression que j'ai réellement parlé du cœur du sujet. Mais si vous regardez bien, pas tant que ça. En revanche, ce dont je suis très content, c'est que le lecteur ressort en ayant l'impression d'avoir navigué, vécu dans la musique de Wagner le temps du roman, et ressort avec l'envie de d'écouter davantage, de découvrir. Mais voilà, c'était pour moi un peu un travail de...
Et est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs quelques minutes de ces Wagneriens qui voient tout, qui vivent tout à travers l'œuvre de Wagner? Il y a des vrais fous furieux de Wagner et qui ont une vision très spécifique du monde.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est vraiment passionnant avec Richard Wagner, c'est que c'était un immense compositeur, mais aussi un homme de théâtre, un philosophe, un essayiste. Il a voulu vraiment créer une œuvre totale, l'œuvre d'art, on parle d'œuvre d'art totale. Et donc, il a créé ce monde-là qui fait que dès son vivant déjà, il avait des fanatiques absolus. L'adjectif wagnérien est apparu très tôt. Il y a peu d'autres compositeurs qui ont leur propre adjectif, comme si être wagnérien, c'est pas seulement qu'on aime la musique de Wagner, c'est une sorte de rapport au monde. Bon, tout cela est passionnant. Je sais plus ce que je voulais dire.
Ça s'appelle un débat.
Sur les wagnériens, c'était très bien. Sur leur vision du monde et sur communauté spécifique que vous explorez dans ce livre.
Oui, oui. Donc les wagnériens vraiment passionnés vivent dans l'œuvre de Richard Wagner. Ils trouvent dans chaque opéra de l'inspiration, du soutien, de l'exaltation pour tel ou tel aspect de leur vie. Et puis c'est aussi un rapport au monde, un art de vivre. Si vous voulez, Richard Wagner, c'est un compositeur on ne peut plus romantique. C'est un grand romantique. C'est vraiment la chose à retenir à son sujet. Et donc le romantisme, c'est croire en des grandes valeurs qui transcende l'homme, c'est croire à l'amour absolu jusque dans la mort, qui est plus fort que la mort, c'est le thème notamment de Tristan et Isolde, c'est croire à l'héroïsme, celui de Siegfried ou de Siegmund dans la tétralogie, et de croire que tout cela est réellement sauve l'homme, est une rédemption, va triompher de la mort. Et ça, je trouve ça incroyable, parce qu'en réalité, à mon sens, on n'est plus du tout dans une époque où on croit à ce genre de choses, on est plutôt pragmatique. Et c'est justement parce que ces valeurs-là ont un peu disparu de notre époque que le wagnerianisme est si intrigant et si inspirant, parce qu'on peut aussi, je trouve, puiser une énergie qu'on ne va plus forcément retrouver dans notre époque.
Vous êtes wagnérien, tous les deux ?
Alors moi, oui, en fait. Je suis tombé dans Wagner quand j'avais 14-15 ans. Quand j'avais 19 ans, je suis parti avec ma grand-mère à Bayreuth et j'ai vu Le Vaisseau, Tristo et Parsifal, Parsifal mis en scène par Wolfgang Wagner, qui était venu saluer. Et là, quand on se dit qu'on a le petit-fils de compositeur et là, il y a petit-fils de Liszt. Bon, d'ailleurs, c'était une mise en scène à chier, comme souvent la mise en scène. C'était un bon directeur de théâtre, mais c'était pas un bon metteur en scène, contrairement à son frère. Tous les deux frères ayant sauté sur les genoux d'Hitler. Enfin bon, là, on va pas repartir dans l'histoire. Mais moi, je suis un grand wagnérien. Et il se trouve j'avais deux passions dans ma vie avant de tomber dans les livres, c'était le cinéma et l'opéra. Et je voulais être soit metteur en scène de cinéma, soit metteur en scène d'opéra. J'ai fait des stages dans ces univers-là et je me suis rendu compte que pour faire ce genre de métier, il faut avoir un tempérament de chef d'équipe, aimer travailler en groupe, aimer donner des ordres, en recevoir. Et donc je me suis rabattu sur les livres parce que quand on écrit un roman, on est à la fois le metteur en scène, le compositeur, le monteur, le producteur, on fait tout. On a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et malgré tout, en fait, j'écris de la critique musicale depuis 27 ans. Et je fais notamment de la critique d'opéra. Donc son livre m'a énormément amusé parce que c'est extrêmement fin, c'est très très bien vu. Et j'ai quelques camarades critiques d'opéra que, en fait, ça a assez dérangé parce que certains sont, il faut bien l'avouer, des musiciens ratés, c'est plus ou moins officiel, et c'est très amusant de voir la façon dont ils ont dit « Oui, alors ce livre, oui, bon, c'est un peu exagéré. » Non, c'est exactement eux, on les reconnaît, et donc bravo.
Merci beaucoup.
On va revenir sur certains éléments, mais est-ce que vous-même, vous êtes une wagnérienne convaincue?
Non, je mentirais. J'ai écouté beaucoup Wagner, mais justement à cette époque adolescente où l'idéalisme et l'enthousiasme romantique m'a traversée. Je pense qu'ils m'ont abandonné. Donc, non, c'est une très belle musique, évidemment. Enfin, il y a quelque chose dans l'écriture orchestrale qui est dingue, et dans les voix, et ce temps long, comme ça, cet étirement exceptionnel. Enfin, il n'y a que lui qui fait ses couleurs, comme ça. Bon. Et c'est très, très beau. Mais ce n'est pas du tout une musique qui m'accompagne au jour le jour. Et c'est vraiment pas du tout la musique vers laquelle je me suis tournée. La musique baroque, c'est vraiment encore tout à fait une autre manière d'envisager les instruments la voix et l'expression.
On va parler un peu des figures fortes dans vos ouvrages qui sont aussi un peu anciennes, Arletty, Vivaldi, Wagner, mais ils ont des choses à nous dire aujourd'hui encore, en 2023, pour des lecteurs et des lectrices, au-delà de ce qui est resté de leur œuvre, leur parcours aussi vous intéressez. On connaît peut-être pas ou peu cette période de Vivaldi qui est plus ou moins prof et qui a beaucoup de temps et beaucoup de main-d'œuvre pour travailler ses opéras avec des copistes, c'est le cas de la personnage principale. On connaît mal, et il y avait cette idée de qu'est-ce qui était intéressant dans ce personnage de Vivaldi à cette époque-là ?
Alors, moi, j'avais envie de montrer un peu ce que pouvait être la vie d'un compositeur à l'époque, et aussi la vie des Vénitiens, c'est-à-dire des auditeurs et juste friands d'aller au spectacle. Et que c'était une vie tout à fait différente que celle d'aujourd'hui, où aujourd'hui, on va écouter justement Wagner, Mozart à l'opéra, et à cette époque-là, on n'écoutait que la musique contemporaine. Donc déjà, c'est envisager la musique classique complètement différemment, c'est-à-dire on allait écouter... Alors, certainement, on devait encore écouter un peu des opéras de Monteverdi, mais ça, imaginons tous nos opéras de France où on ne jouerait que de la musique contemporaine. Ça voudrait dire que les compositeurs fourniraient énormément de musique. Donc ils étaient obligés d'écrire. Il y avait énormément de théâtre et d'opéra à Venise au 18e, début 18e. Et juste redire qu'à cette époque-là, la vie vénitienne est scindée en deux. Et là, il y a des périodes de carnaval et des périodes de carême qui sont en alternance de 6 mois chacune, enfin par tranche de 2 mois, et que dans ces périodes de carnaval où tous les opéras et tous les théâtres sont ouverts, donc là, les compositeurs et les dramaturges écrivent, notamment Vivaldi à cette époque-là, qui est directeur et impresario d'un théâtre qui s'appelle Sant'Angelo, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était sur le Grand Canal, et qui donc s'occupe des décors, des contrats avec les chanteurs, des musiciens, etc., et d'écrire la musique. Donc, il a besoin de petites mains pour l'aider, parce qu'évidemment, il n'y a pas de... On ne photocopiait pas la musique, donc il fallait la recopier. Tout le monde recopiait toutes les parties instrumentales. Et puis, quand c'était les périodes de carême, les Vénitiens allaient écouter la musique dans les églises. Et c'est là que des institutions comme la Pietà, qui élevait, qui permettait aux jeunes filles d'avoir un excellent niveau, entrent complètement en compte, et que les compositeurs, qui n'ont plus d'autre lieu que les églises, écrivent à tour de bras de la musique sacrée. Donc j'avais envie de montrer aussi la différence par rapport à aujourd'hui. Évidemment, on a d'autres manières d'écouter de la musique que d'aller au concert, mais aussi, aujourd'hui, on écoute beaucoup de la musique plus ou moins ancienne, et qu'à l'époque, c'était pas du tout ça, c'était la musique du jour.
Je vous ai vu un peu tiquer quand j'ai dit ancienne Arletti,
Non, mais parce que Vivaldi, Wagner, oui, Arletti, on n'est pas exact. Vous avez un sens de la chronologie un petit peu élastique, cher ami.
C'est pas la même ancienneté.
Oui, bien sûr.
C'est pas la même ancienneté. Mais il y a des choses de son parcours qui peuvent vous inspirer, vous, ou qui peuvent inspirer tout le monde. Il y a des choses très inspirantes.
C'est-à-dire c'est une femme. En fait, elle n'aurait pas eu cette histoire d'amour malheureuse mais passionnée pour elle avec un officier allemand pendant la guerre. Elle serait une des figures féminines les plus importantes. Je pense qu'elle serait un modèle pour les féministes et tout ça, parce qu'elle avait une liberté de ton. Elle était ouvertement bisexuelle dans les années 30. Enfin, elle assumait tout ce qu'elle était. Elle avait une liberté de ton, de parole assez unique pour son temps. Ensuite, voilà, cette liberté, elle l'a payée parce qu'elle est tombée folle amoureuse d'un Allemand pendant l'occupation. L'histoire est connue. Et en fait, ça lui a coûté sa carrière, ça lui a coûté sa réputation, ça lui a presque coûté sa vie, et ça lui a coûté sa vue, puisqu'elle est tombée, elle est devenue aveugle quelques années plus tard, et tout ça dû aussi au soubresaut que ça a provoqué dans sa physiologie. Mais voilà, on lui a reproché beaucoup de choses, mais en fait, elle a un petit peu payé pour les autres. Elle a, contrairement à d'autres comédiennes comme Danielle Darrieux, en fait, elle n'a pas travaillé pour les Allemands, elle n'a pas fait de voyage en Allemagne, mais elle a subi son cœur et son désir au lieu de suivre, disons, peut-être son sens du devoir, si tant est que ça voulait dire quelque chose pour elle. Mais voilà, c'est une femme libre, et cette liberté de ton et de corps et de propos et d'esprit est assez unique en son genre.
Et c'est quelque chose qui vous connaissiez déjà très bien son parcours.
Ah oui, 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 oui. Moi, ça, j'ai beaucoup pratiqué toute cette période-là. La période de la vie sous l'occupation est quelque chose qui m'intéresse pour plein de raisons, y compris à cause du nom que je porte, parce que mon grand-oncle Honoré d'Estienov, résistant, voilà, toutes ces choses-là. Donc je baigne là-dedans depuis toujours, et c'est 4 ans de vie française d'une richesse, d'une complexité infinie, et je n'en finis pas d'écrire dessus. J'ai écrit des romans qui se passent à cette période-là, j'ai écrit des essais, et j'ai écrit cette biographie.
Et un mot encore sur Arletti, sur le fait que jusqu'à la fin, elle ne regrette rien.
Elle assume tout, c'est-à-dire que en fait, elle a une vie, c'est un destin assez tragique. En fait, elle est connue pour une poignée de films sortis entre 1938 et 1944, alors qu'elle a eu une longue vie avant, une longue vie après. Mais elle est connue pour des films, en fait, elle aimait le théâtre, comme Rému, comme Jouvet, comme Michel Simon. Elle disait, le cinéma, c'est notre argent de poche, nous, on est des gens de la scène. Elle aimait le contact avec le public. Ce que vous disiez sur l'époque des théâtres à Venise, à Paris, dans les années 30, il y avait des créations tous les soirs de spectacles. Les gens restaient pas chez eux devant la télé pour voir quelque chose. Il fallait sortir, il y avait à peine les disques. Donc, pour entendre de la musique, pour voir des spectacles, et même pour voir des films, on allait au cinéma, au théâtre, au concert. Donc, il y avait une vie de musical, une vie de théâtre, une vie de spectacle absolument fourmillante. Et elle a vécu, elle incarne tout ça, parce qu'elle vient, elle a commencé dans des revues, elle vient du music hall. Les gens savaient à la fois jouer, chanter, danser. Il y avait une interpénétration entre les genres et les disciplines artistiques qui en fait n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc elle incarne un peu cet âge d'or, si je puis dire. J'ai un peu tendance à être nostalgique, mais je l'assume. De voilà où on pouvait passer d'un genre à un autre, de la comédie au drame, de l'humour au sérieux. Et en fait, Arletti incarne tout cet esprit-là.
Et quelque chose, et je vais revenir avec vous dans quelques instants, oui. Mais je vais revenir sur votre titre, Le Feu Sacré, parce que Le Grand Feu, pardon. Parce que le Grand
c'est
Feu,
lapsus.
Parce que elle n'a pas le feu sacré. On en parlera dans quelques instants. Mais vous, c'est le Grand Feu, c'est cette passion absolue, alors qui peut être amoureuse et sensuelle, mais qui est véritablement, ce que même peut-être vous, vous avez avec votre instrument, c'est ça qui représente le titre ?
Oui, alors pour le dire succinctement peut-être, je trouve que l'émotion artistique que l'on a parfois en jouant sur scène, qui est liée à une forme d'alignement que l'on peut avoir du corps, puisqu'on joue avec notre corps, le corps, l'âme et l'esprit, et parfois il y a un alignement comme ça qui fait que on entre, il y a quelque chose de nous qui entre hors du temps, il y a quelque chose qui se passe, qui nous projette ailleurs, comme quand on vient, quand on va au spectacle et qu'on est transporté. Et ce transport-là, qui nous met hors de nous-mêmes, hors de notre espace-temps, c'est le même que le transport amoureux, parfois, qui est l'autre espace où on peut être ailleurs. Et pour moi, le grand feu, c'est ça. C'est ce qui vient englober l'un et l'autre de cette flamme, comme on dit, s'enflammer, s'embraser, et qui à la fois anime et qui consume, qui a cette sorte de double pouvoir.
On a l'impression que, pour revenir sur Arletty, qu'elle ne l'avait pas.
Elle, Arletty, n'avait pas d'ambition particulière. Elle venait d'un milieu très modeste. Elle habitait à Courbevoie, donc d'un côté de la Seine. Et elle se disait un jour, j'irai de l'autre côté, voir les lumières de la ville. Et c'est une suite de rencontres de hasard. Elle rencontre un homme dans le bus qui est quelqu'un qui va lui faire lire des livres. Ensuite, elle rencontre un monsieur dans la rue qui dit « Oh, vous avez une jolie silhouette, allez voir un tel et faites du théâtre. » Et c'est une suite de rencontres complètement par hasard. Et sa carrière s'est faite comme ça, de façon un petit peu aléatoire, de briquet de broc. Et petit à petit, au bout du compte, on a la garance des Enfants du Paradis. Mais il n'y avait pas de... Elle a toujours suivi son cœur, son instinct, mais elle a toujours fait passer ses passions personnelles, ses passions amoureuses, avant ses choix artistiques, toujours.
Alors une autre figure, c'est celle des critiques que vous mettez en scène dans votre roman. Il y a deux visions, deux auditions de Wagner dans le livre, de la musique aussi, de l'art, du métier d'art, à travers le jeune critique et le plus ancien. Il y a le combat un peu éternel entre la jeune garde et les classiques. Alors je vais vous citer une critique de Céline sur Babelio. Ce roman nous offre donc l'opportunité rare d'entrer dans les bottes d'un critique, de plonger au cœur des débats intellectuels qui anime le monde de l'opéra, et j'apprécie que nous soit rappelé, avec ces joutes verbales démonstratives, que l'appréciation de l'art est souvent une question de point de vue et de nuance. Alors, juste plusieurs questions autour de ça, mais déjà, la figure de la critique, elle vous intéresse particulièrement ? Du critique ?
Elle m'intéressait puisqu'elle me permettait donc de faire parler mes personnages de musique, et j'avais envie de le faire, de manier l'éloquence, puisque... Comme vous l'avez dit, il s'agit bien d'une joute oratoire. J'avais réellement envie de mettre cela en scène. Il y a des grandes joutes en littérature qui m'ont influencé. J'avais envie de créer la mienne, de manier l'humour aussi, puisque il y a dans ce duel oratoire de la pédanterie, de l'excès, et puis parfois un peu d'absurde, puisqu'on se rend compte que successivement, telle ou telle critique a fini par prendre la position initiale de l'autre, ou bien l'un des deux critiques, suite à un incident que je raconte dans le roman, n'a pas pu assister à l'une des représentations, mais il se retrouve embarqué dans la joute, dans le duel oratoire, où il est obligé de parler d'une mise en scène qu'il n'a pas vue, et il va s'en tirer extrêmement bien. D'ailleurs, ça peut rappeler parfois certaines critiques littéraires de gens qui n'ont pas forcément lu le livre ou rapidement. Bon, donc il y avait cet aspect-là.
Et vous ne semblez pas prendre parti entre les deux visions, parce qu'il y a aussi deux visions donc de la musique. Ils ont la mauvaise foi, ils ont beaucoup de choses, mais ils ont quand même deux visions un peu différentes. Et vous ne semblez pas forcément prendre parti.
Non, je trouvais ça réducteur. Moi, je me vois vraiment comme romancier. Voilà, prendre parti pour dire les mises en scène contemporaines, c'est nul ou c'est génial, je trouvais que ça réduisait la portée du roman. Je pense qu'on sent quand même, si on additionne donc toute cette joute, tous les propos qui sont tenus, que j'ai une certaine circonspection à l'endroit du Régitheater, qui est donc cette forme, cette grande école de mise en scène qui domine depuis environ 60 ans, et qui autorise le metteur en scène à prendre une grande liberté par rapport au texte, et pas seulement, si vous voulez, à changer, à transposer l'histoire dans une autre époque, mais réellement à introduire des éléments, à en retirer d'autres, donc à arranger l'histoire à sa sauce. Je pense qu'on, voilà, en lisant le roman, on sent que je critique un peu cela, mais c'est pas tellement le, voilà, je voulais que ça reste un peu plus ambigu et subtil. Et puis, En parlant de en mettant en scène ces critiques, je voulais également parler de l'orgueil, de l'orgueil, du masque qu'on peut avoir, puisque c'est voilà, c'est les critiques ont généralement une posture qui les oblige à être assez pas forcément excessif, mais assertif. Et parler de critique me permettait voilà, d'étudier cette distance qu'il y a entre la personne qu'on devient soudain quand on prend la parole sur scène, ou qu'on va rédiger une critique incendiaire, ou au contraire dithyrambique, qui peut être excessive, où il peut y avoir, voilà, encore une fois, un peu d'orgueil et de vanité, et la personne qu'on est réellement quand on est seul chez soi, à écouter de la musique ou à lire un livre dans le secret de son intimité. Et je crois que la réalité de l'être humain réside davantage là. Et c'est toujours plus complexe que ce qu'on va formaliser au final dans un duel oratoire. On va prendre une position dans n'importe quel spectacle ou audition musicale. Ce qu'on ressent est complexe, subtil. Mais ensuite, quand on doit rendre un verdict, et surtout quand on est mis en situation de conflit, de duel avec un adversaire, on est obligé de forcer le trait et au final de simplifier.
Alors, vous n'avez pas forcément de duel, mais vous êtes critique musicale. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous êtes aussi obligé, de par ce métier, enfin, de par cette activité, de forcer le trait ?
Ça dépend. Ce qui est drôle, c'est quand on est... Généralement, les critiques, on est au même rang. On est tous au même rang, on se retrouve à côté, on se connaît. Et il y a une espèce de température qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit le spectacle commence... On se regarde un peu. Alors, généralement, ils font un peu la gueule. Il y a un côté un petit peu... Tous les gens sont contents d'être au spectacle, sauf les critiques. C'est toujours pareil. Il y a un côté, ils sont un peu blasés. Ils regardent leurs voisins. Le spectacle commence. Ils applaudissent pas, bien entendu. Et puis c'est le premier entracte. Et on se suit un peu en fenouillard. Évidemment, on est gentil. On nous offre un cocktail gratuitement. Et donc, là, on profite du castel. Et là, on prend la température. Et ça, souvent, il y en a un qui donne le là. Et c'est assez drôle parce que parfois on a une opinion et tout à coup il y en a un qui dit ça et ça contamine les autres. Et c'est mais c'est à qui donnera le là ? Et ensuite on peut se retrouver au deuxième entracte et à la fin on peut être totalement retourné juste parce qu'on passe l'acte suivant à dire mais en fait non, en fait c'est lui qui a raison. Et donc on fait son autocritique, on fait son propre procès de Moscou et donc on reprend le truc à l'envers. Donc c'est très pervers. En fait, chaque critique devrait être isolée, ne pas parler aux autres et ce serait bien intéressant. Moi, si je peux. Sauf que c'est des copains, mais j'essaie de me mettre à part pour ne pas être contaminé. Et parfois, je compare et je vois qu'ils sont 8 à dire la même chose. Et moi, il y a un truc discordant. Et en fait, je vois qu'il suffisait de tirer une ficelle et ça renversait toute la pression.
Vous êtes musicien, vous avez un regard peut-être différent, évidemment, de la critique. Mais elle est intéressante pour vous. Vous la regardez, écoutez, lisez des critiques, même en tant qu'écrivaine, peut-être en tant qu'autrice.
Sincèrement, j'essaye d'éviter. quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que je trouve que c'est difficile, parce que évidemment je pense que ce soit réussi ou pas, on essaye quand même toujours de faire au mieux, donc je comprends tout à fait que les gens aiment ou n'aiment pas, enfin ça c'est le choix de l'autre, mais moi ma place en tant, alors après quand je vais voir un spectacle c'est autre chose, mais je suis pas payée pour en tout cas je suis pas critique, donc c'est juste pour moi, mais quand il s'agit de l'artiste, là je m'en protège parce que c'est important d'avoir des gens de confiance, je pense autour de soi, qui ont une critique que je peux écouter et qui m'aident à progresser. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut savoir s'entourer pour avancer, parce que les œuvres ne sont pas, sont toujours évidemment imparfaites. Donc pour essayer de les améliorer, il faut des gens autour de confiance, mais sinon non.
Je vais quand même vous citer une critique de votre livre, une critique de Montmartre sur Babelio. L'écriture de Léonore de Recondo est tout simplement sublime. Sa légèreté, sa sensibilité, sa sensualité nous transportent comme un concerto de Vivaldi. Peut-être pour nous parler de la façon dont vous avez écrit ces passages aussi, où vous parlez du violon et du fait de jouer du violon. Vous avez trouvé assez vite la façon d'en parler, l'écriture pour en parler ?
Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très difficile d'écrire sur la musique parce qu'il n'y a pas de... n'y a pas de mots. Je pense que c'est comme le parfum aussi. C'est vraiment des espaces comme ça où on manque de vocabulaire, mais bravo de réussir à mettre des mots sur la musique. Donc, en tout cas, sur l'émotion, c'était le défi de ce livre pour moi, c'était justement comment écrire l'émotion, musicale. Après, celle de l'apprentissage et de ce que c'est qu'être violoniste et d'apprendre à jouer du violon, bon, mais ça, je le connais, donc c'est pas pour ça que je le fais bien, mais en tout cas, j'ai une connaissance profonde de comme ça change le corps, et oui. Ensuite, j'avais envie que la langue soit à l'image de cette musique-là, c'est-à-dire qu'il y a une forme, ça s'appelle le grand feu, mais à la fois de flamboyance et de fluidité qui sont aussi la musique de cette époque-là, elle est aussi comme ça, elle est à la fois très flamboyante et elle peut être très simple et très avec une forme de sensibilité comme ça, juste. Donc ces choses-là, j'ai essayé aussi de les distiller dans le style pour que la forme, que le fond et la forme fassent corps.
Alors j'ai cité une critique pour vous deux, je vais vous en citer aussi une d'une lectrice.
Allez-y.
D'une lectrice, je crois, de Valmy sur Babelou, à propos du choix de la première personne, qui est assez fort comme choix pour écrire ce livre. Le récit est écrit donc à la première personne du singulier, ce qui donne une sensation de proximité avec Arletty. Elle attise l'empathie et invite à entendre ses choix, ses élans, à gratter l'aura pour approcher son cœur et ses pensées. Alors peut-être une question sur l'évidence ou pas de se mettre dans sa peau.
En fait, c'est un exercice de style que j'avais déjà pratiqué dans une précédente biographie, toujours chez Calman Levy, sur Marthe Richard, aussi personnage compliqué qui est à peu près la même, qui vivait dans les mêmes périodes que Carletti. En fait, j'ai écrit beaucoup de livres de genres très très différents. J'ai écrit des romans policiers, des thrillers, des essais, des nouvelles, des dictionnaires, des bios. Donc ça, c'est une chose que j'avais jamais pratiquée. Essayer, j'aime bien à chaque fois faire quelque chose de différent. C'est pas du dilettantisme, c'est de la curiosité, c'est du goût d'essayer de découvrir des choses. Et pour moi, ça s'est passé de façon assez évidente. Je me suis dit au départ, est-ce que je le fais OL? Et tout à coup, j'ai commencé à faire ça au jeu. Et c'est venu naturellement. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je suis devenu Arletty, mais au bout du compte, j'ai passé tellement de temps à travailler sur elle que voilà, il y a eu une espèce de fusion un peu étrange qui a duré quelques semaines, quelques mois. Mais j'étais très bien dans les vêtements d'Arletty, dans ses dessous, dans ses tenues étranges, avec dans les bras de tous ces messieurs que je ne connais pas, et de ces dames d'ailleurs, ce qui est mieux. Mais donc tout ça, c'est passé de façon douce et naturelle. Et en fait, voilà, ça n'a pas été un effort considérable. C'est venu très... avec beaucoup de fluidité et de naturel.
Sachant qu'elle elle était connue d'ailleurs pour ça, et ça lui a joué des tours. Elle avait une répartie, elle avait une verve, elle avait quelque chose de très particulier dans sa façon de parler. Et vous aviez...
C'était ça le plus délicat, c'est-à-dire que je voulais surtout pas faire du Arletty. Jamais je voulais qu'on ait l'impression que c'était une lecture gouailleuse, ça se lit comme ça. Et j'ai même retiré toutes les répliques célèbres d'Arletty. Il y en a pas une que j'ai mise dans le texte parce que c'était trop facile de faire une suite de bons mots. Au contraire, j'ai pas voulu en faire non plus des fausses. Petit à petit, c'est venu naturellement. Il y avait pas de, j'ai pas cherché à faire une espèce de langage parodique. C'est pas comme vous savez, ces biopics où en fait on est plus impressionné par le maquillage et la perfection, le mimétisme visuel, que juste par le jeu des comédiens.
Est-ce que la rencontre touche à sa fin? Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il y en a une là-bas. Je vous en prie, on vous donne un micro.
Bonjour, je voulais savoir pourquoi vous aviez coupé le texte Arletty. Pourquoi vous l'aviez coupé en plusieurs mots, en plusieurs...
Ça s'appelle de la typographie, c'est que juste simplement, en fait, ça ne tenait pas. Pourquoi Arletty? Non, c'est juste quelque chose de visuel. En fait, c'est la typo Cassandre, c'est une typo des années 30. Et en fait, ça rendait bien comme ça parce que les affiches de l'époque étaient comme ça. Mais si vous le lisez sur la tranche, le mot est entier. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a tout dans mon livre, en vertical, en horizontal. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, madame.
Vous avez un film à conseiller d'ailleurs, on la connaît pour certains films très connus. Est-ce qu'il y en a certains qui sont peut-être moins mis en valeur aujourd'hui?
Franchement, depuis Hôtel du Nord jusqu'aux Enfants du Paradis, à Hôtel du Nord, Le Jour se lève, Les Visiteurs du Soir, Fric Fac, Circonstances atténuantes, Madame sans gêne, Les Enfants du Paradis. Avec ça, on a tout ce qu'il faut. En fait, elle a tourné beaucoup de films assez mauvais de son propre aveu avant la guerre et pas mal de navets après-guerre. Donc, en fait, si vous en tenez au grand classique, ça suffit. Très objectif.
Et on peut entendre ces chansons quand même.
Absolument. Oui. Et ce qu'il faut écouter, c'est une œuvre que j'adore, qui est Au Mon Bel Inconnu, qui est une opérette de Reynald Dohan sur un texte de Sacha Guitry, qui est une petite merveille, dans lequel elle chante l'air de la calcographie, qui est un petit bijou.
Voilà. C'est compliqué de prendre des places pour le festival de Bayreuth. Il y a des opéras tout de même que vous conseillez particulièrement pour découvrir ceux qui connaissent peut-être pas du tout Wagner. Ou peut-être il faut tout écouter ou certains.
Non, alors effectivement, aller voir des opéras de Wagner en France, il y en a très régulièrement mis en scène. Là, il y a un Lohengrin qui vient de se finir à l'Opéra Bastille. Et puis, il y en a d'autres en permanence. Hein, c'est vraiment après, tout simplement, chez soi, via Spotify.
Il y a votre playlist.
Et tout à fait. Donc il y a la playlist qu'on a faite à la fin du roman où on a repris tous les morceaux cités dans l'œuvre de Wagner. Ce qui d'ailleurs est pas évident parce qu'en fait Wagner n'a pas vraiment de morceaux, c'est de la musique continue, donc qui a pas été faite du tout pour être segmentée. Mais bon, on a quand même fait de notre mieux. Et je pense que le mieux pour découvrir Wagner, c'est les préludes et les ouvertures. Vous trouvez facilement aussi des compilations sur le prélude de Lohengrin par exemple. Il est absolument sublime, on ne peut plus spirituel. Et ceux qui pensent que Wagner, c'est de la musique toujours un peu écrasante, édifiante, il faut vraiment écouter le prélude de Lohengrin, c'est sublime.
Peut-être Léonore, sur Vivaldi ?
Alors Vivaldi, évidemment, Les Quatre Saisons, l'automne. Il est très très connu pour ses Quatre Saisons. C'est quand même complètement fou, parce que c'est un compositeur qui a été complètement oublié et qui a ressurgi dans les années 50-60, et maintenant je pense que ces Quatre Saisons sont jouées mais partout dans le monde. Donc grande œuvre pour violon quand même, hein, grande virtuosité, très très belle œuvre. Il a écrit, alors moi je dirais, beaucoup d'opéras aussi, des très beaux opéras, donc pareil, et de la musique sacrée. Alors pour le violon, il y a des très belles sonates d'église que vous pouvez écouter, qui sont magnifiques, et beaucoup d'œuvres aussi sacrées pour voix qui sont magnifiques.
Il faudra mettre une playlist pour la prochaine édition.
Promis.
Juliette Just, si, ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Le Grand Feu aux éditions Grasset, Léonore de Recondo. Merci beaucoup.
Merci.
Charlie Roquin, Les Maîtres de Bayreuth aux éditions Le Cherche Midi. Merci beaucoup. Et Nicolas Destienne-Dorve aux éditions Calmann-Lévy, Arletty, Un cœur libre.
Merci.
Merci à vous. Merci à tous.